pile 11h.
Il est 11h.
Bonjour, c'est Alex. Vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ces nouvelles confidences musicales d'Antenne 87. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment être dans le cœur, dans l'ADN de cette émission. 100% musique, 100% confidence. Une pincée d'anecdotes et une bonne dose d'émotion. Mon invité est depuis fort longtemps et totalement passionné par la chanson française à texte. Parisien d'origine, il a fréquenté toutes les scènes, tous les théâtres, tous les cabarets. Et puis, installé dans nos plaines de Champagne, il a eu l'idée géniale, presque comme une évidence, de mettre en place un festival rare, peut-être même unique en son genre, dans cette campagne qu'il aime tant. Un festival qui fête aujourd'hui ses 30 ans, 30 ans de talent, de convivialité, de proximité et surtout d'amitié.
D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se prendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pas tant.
C'est vrai.
Jean-Pierre Béal, bonjour.
Bonjour Alex.
Alors Jean-Pierre, à quel titre vous êtes avec nous ce matin ?
Alors, il semble que c'est suite à l'événement qu'on a créé il y a maintenant 30 ans, quoi, le Festival Grange. Petit à petit, ça a pris sa place dans le sud-ouest marnais. Et donc, on arrive à la 30e édition, donc c'est normal qu'il y ait une petite notoriété. Quoi,
voilà. Oui, donc vous êtes le créateur du festival. Je n'ai pas menti dans mon intro,
c'est bien ça. Non, c'était tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Ouais. C'est vous et vous tout seul au début qui avez eu cette idée, évidemment, c'est... après...
Oui, ça a démarré tout à fait tranquillement dans une grange où il y avait encore du foin et des amis qui chantaient, dont c'était la profession, des artistes, sont venus faire un concert, deux concerts, puis on a vu que finalement il y avait une espèce de scène là. Enfin, à l'époque c'était pas une scène, c'était un endroit où on mettait le foin, donc il y avait encore du foin. Et il y avait des gens comme Gilbert Lafaille qui était un ami, tout ça, qui est venu chanter. Puis un jour on a dit c'est pas possible, on peut peut-être.
Mais c'est tellement évident.
C'est évident.
Mais c'est le lieu qui vous a inspiré, qui vous a parlé.
Je pense que le lieu a participé, il participe toujours d'ailleurs à l'ambiance qu'il y a dans les concerts.
On va profiter de cette heure ensemble pour effectivement remonter le temps. Comme on l'a dit, hein, c'est la 30e émission. Ouais. En septembre prochain, mais vous avez tellement de choses à nous raconter. Oula. Comment c'est né, pourquoi c'est né, les anecdotes, qui est venu, qui n'est pas venu aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, hein, vous êtes un amoureux de la chanson, c'est totalement sentimental chez vous, hein, c'est ancré en vous, c'est chevillé au corps.
Ah oui.
Vous nous avez concocté une playlist totalement cohérente, qui parle de cette chanson française qu'on aime tant. Et alors, il y a de l'audace. Il y a de l'audace dans ce premier morceau que vous avez choisi, qu'on entendait à peine. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à aller à le retrouver. Il fallait vraiment bien tendre l'oreille. Est-ce que les gens ont bien entendu qui chantait ? Je ne sais pas.
Ah oui.
Ils étaient deux. Je vous laisse présenter.
Ça faisait un peu comme ça, là. D'avoir vécu le cul dans l'herbe. Comment il s'appelait ce type ? C'était un monument.
Alors c'est vrai que ceux de moins de 20 ans, on va dire, hein, ne le connaissent peut-être pas. J'ai testé autour de moi. en dessous de 30 ans, même j'irais, ça ne leur dit rien. Et pourtant, mais quelle figure !
Ce type s'appelait Michel Simon.
Quelle figure du cinéma ! Est-ce que c'était quelqu'un qui avait un rapport à la musique, était chansonnier aussi ?
Il avait un rapport à la musique. Il a fait plusieurs disques, hein, mais bon, c'est anecdotique dans sa vie de
il n'était pas
comédien.
Autant chansonnier que l'avait été, par exemple, Jean Gabin.
Jean Gabin, lui, il a démarré comme
voilà,
ça.
Jean Gabin a vraiment démarré dans la chanson.
Oui, on le voit dans La Belle Équipe chanter.
Oui,
mais,
tout à
mais,
fait.
Mais il a démarré dans la comédie, quoi. Il y a 20 ans avant la guerre, quoi.
Alors, donc, on a effectivement, pour les plus vieux d'entre nous, reconnu Michel Simon et sa voix totalement unique, inégalable. Et Michel Simon, il était avec qui sur ce duo ?
Ah, avec le type qui a écrit la chanson.
Voilà.
Et voilà. Et il s'appelle Gainsbourg.
Oui, ça me dit vaguement quelque chose.
Hein. Ouais, ouais.
Alors là, pour le coup, ça dit quelque chose à tout le monde. Hein,
absolument.
Parce que.
Ouais. C'est, et j'ai même un souvenir personnel parce que je me souviens très bien, à 17 ans, je le rencontre à Paris, dans la rue Chaptal. Personne ne le connaissait à l'époque, ou presque. Il avait fait quand même le poinçonneur des Lilas. Hein. Mais il avait tourné des péplums, ce qu'on sait moins, en Italie. Donc, voilà.
Oui, en effet. Il n'en a pas trop parlé par la suite.
Non, j'ai les preuves, hein, j'ai les affiches.
Ok, d'accord. Nous pouvons vous faire parler.
Absolument. Et donc, je m'approche de lui pour lui faire signer un autographe. Et il est pris de trouille.
Ah oui, parce que c'était un grand timide.
C'était un grand timide.
Oui.
Et il rentre dans une boulangerie, j'ai réussi à le coincer entre les croissants et les baguettes. Et là, il m'a signé mon autographe.
Un petit peu d'autorité dans ce monde, hein, c'est incroyable. Eh bien, vous savez, alors moi, j'ai totalement une autre anecdote avec Serge Gainsbourg, qui est beaucoup moins personnelle, évidemment, mais quand même, ça m'a marqué. Au moment de sa mort, je prenais beaucoup le train et vous vous souvenez qu'il avait fait une interview posthume dans un célèbre journal et je vous assure, à l'époque on n'avait pas le portable, j'ai pas pu faire de photos mais j'ai gardé cette photo mentale. Je me souviens, ça c'est quand même une photo totalement rarissime, tout le monde dans le compartiment lisait le journal. Vraiment c'était incroyable. Il y avait, je ne sais pas combien il y a de personnes dans un compartiment, 30, 40 personnes, et il y avait 40 couvertures avec cette interview. Je me suis dit quand même c'est quelque chose. Complètement dingue.
Ouais.
Donc voilà, il n'existe pas de photo de ce que je raconte,
non, mais
il faut croire Alex sur parole. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette chanson L'herbe tendre?
L'herbe tendre, de mémoire, c'était dans un film, hein, mais je me souviens plus du titre du film. Et l'image est très belle parce qu'ils sont assis tous les deux, ils sont dans la nature. Et je suis content qu'on passe ça en introduction.
Mais c'est votre choix, cher Jean-Pierre. Hein, moi, je suis le choix de mes invités.
Alex. Je vous remercie, Alex. pour moi, ça représente bien. Je trouve que ça correspond bien à ce que je suis un peu quand même. Les petits plaisirs, c'est prendre.
Le côté un peu bucolique.
Bucolique. Malgré une vie assez active comme tout le monde, mais je pense que je sais profiter de ces petits moments et cette chanson m'a toujours accompagné, quoi, en fait.
Eh bien, en plus, on peut dire, on l'a un petit peu dit dans l'intro, mais vous êtes un ancien Parisien. ouais. qui est arrivé dans notre belle région il y a déjà un certain temps. Vous êtes totalement amoureux de cette région.
Ah oui.
D'ailleurs, on le dira un peu plus tard dans l'émission, mais vous écrivez aussi sur cette vallée du Petit Morin.
Cette vallée du Petit Morin qui est très belle.
Qui vous est particulièrement chère. Alors, on enchaîne directement avec un deuxième choix. Je vous laisse le présenter. Ça s'appelle « Dans ma maison d'amour » de Pierre Vassilou. On parle du morceau, on parle de Pierre Vassilou.
Ah oui, Pierre Vassilou. Donc Pierre Vassilou, on le connaît pour « Qui c'est-il ce type-là », etc. Pour des chansons, ses premières chansons qui étaient très drôles. On se souvient de lui d'ailleurs dans l'émission de Mireille, le petit conservatoire. J'ai une image de lui passant tout gamin dans cette émission. Et là, en fait, je trouve que c'est une chanson d'amour extraordinaire.
Elle est très belle.
C'est un texte fort bien écrit et qui moi me touche aussi, comme tout à l'heure la chanson là, et qui raconte l'histoire de cette maison et de sa famille et tout, et etc. Il avait de très belles chansons et il y avait une autre chanson un peu dans ce ton là. C'était Amour amitié. Je ne sais plus si. C'était un grand bonhomme qui a beaucoup voyagé. Il était international finalement.
On ne l'imagine pas forcément voyageur.
Il a été installé au Sénégal pendant très longtemps. Il a mené une vie un peu de bohème quand même. Et notamment au Sénégal où il était installé, il avait un restaurant là-bas. Voilà.
Eh bien, on écoute Dans ma maison d'amour.
Quand j'aurai 40 ans, si on me laisse le temps, je veux que ma maison soit pleine, comme toujours, de bruit, de déraison, de calme et puis d'amour. Qu'il y ait des poivrons, musiciens et poètes, des vrais qui ont du talent ou qui n'ont pas la grosse tête. Ceux avec qui j'ai fait du temps des pique-assiettes, des baise-mains perfides sur les mains indiscrètes des vieilles jeunes du 16e qui nous faisaient venir pour 2000 anciens francs faire les clowns dans leur luxe, mais avec la promesse un jour d'intervenir auprès d'un vieux ministre qui connaîtrait Guy Lux. Je veux qu'il y ait toujours dans ma maison d'amour des hommes cultivés qui parlent d'ésotérisme devant des filles bébêtes mais belles comme le jour, qui entendent science occulte et comprennent érotisme. J'aurai 50 ans, eh oui, si on me laisse le temps. Si je suis comme toujours dans ma maison d'amour, j'aimerais que mes enfants, sinon pas foutu le camp, connaissent les vieux chacals, les requins, les loups de mer, avec qui je suis tombé dans toutes les galères, toutes les embuscades de Saint-Germain-des-Prés, quand on sortait des boîtes complètement beurrées. Eh bien, à 50 ans, je le ferai encore. Je suis sûr qu'un matin, on nous foutra dehors, parce que d'un bilboquet, on fera la fermeture et qu'on ira pisser sur les roues des voitures. Je veux qu'il y ait toujours dans ma maison d'amour des hommes qui aiment les chiens et surtout les enfants, des hommes qui croient en tout et même au Père Noël et qui disent à leur femme qui vieillit, tu es belle. J'aurai tant et tant, si on me laisse le temps, que mes copains viendront sur leur fauteuil roulant, le comparer au mien avec un petit sourire. Je veux que tous ensemble nous parlions d'avenir. Pas de rides, pas de lunettes, pas de fauteuil, pas de canne, même que nous danserons sur le dernier Dylan. Je ne veux pas qu'on parle, je serai sévère, je ne veux pas entendre un seul mot sur la guerre. D'autres en parlent pour nous, mais c'est vrai, moi aussi, là que j'avais oublié mes 3 ans d'Algérie. Je veux qu'on boive un coup et qu'on fasse des fredaines et puis que nos enfants se moquent.
de nos bedaines. Puis je veux que nos femmes nous fassent encore le coup de l'amour-amitié, du baiser dans le cou, avant que les huissiers survolent comme des vautours notre maison. Fermons nos portes à double tour. J'aimerais cette nuit pour attendre le jour qu'on ferme encore les yeux et qu'on fasse l'amour.
Mon Dieu, quelle chanson, quelle
bien.
Puissance,
c'est
il y a tellement de choses, et il y a beaucoup de choses, parcours de vie, ambiance également, d'une vie de chansonnier. Alors moi j'ai plein de questions sur cette chanson et sur lui, que je connais très très peu. Finalement dans son œuvre, il a plutôt fait des chansons un peu rigolotes, comme qui c'est celui-là, ou plutôt ce style-là?
Oui, non, il a fait les deux. Il a toujours eu cette tendresse, ce sens de la poésie, quoi. Bon, et puis des chansons rigolotes. Mais sa vie était un peu comme ça, quoi. Il a bourlingué un peu partout de mémoire. Et Amour, amitié, c'est un petit chef-d'œuvre aussi. Hein, et là, on voit que la chanson, ça accompagne la vie, quoi. C'est vraiment et c'est universel en même temps. C'est ça qui est curieux. Il raconte sa vie là.
Sa vie, oui. On sent une tension qui va crescendo comme on avance dans la vie. Il y a beaucoup de réalisme, il y a beaucoup de tendresse, et puis ce phrasé.
Il a un phrasé.
D'ailleurs je me disais mais je reconnais un peu sa voix, mais pas tant que ça, quoi, parce que un autre personnage.
Voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour eux.
Et vous l'avez rencontré, Pierre Vassilou?
Non, je l'ai pas rencontré, non.
Et alors,
il habitait, je me souviens, à la Varenne Saint-Hilaire, qui est à côté de chez Charles Trenet d'ailleurs, qui habitait aussi à la Varenne. Mais j'ai jamais rencontré, je le regrette.
Je m'en doute. Et dans ce parcours un peu là de Parisien qui va de boîte en appartement luxueux pour un peu le cacheton, quoi, on va dire. Hein.
Ouais,
Est-ce que c'est une ambiance que vous, en tant que Parisien, vous avez un peu connu, puisque
alors,
vous avez un peu bourlingué dans ça?
Il y aura peut-être des moments où on pourra en parler un petit peu, effectivement. Et puis c'était la vie des artistes quand même, parce que il y a peu là au festival est passé Claude Lemel. Claude Lemel.
Oui. Et alors là c'est un nom.
Alors Claude Lemel, c'est les chansons de Joe Dassin, c'est Reggiani, et c'est aussi le président de la SACEM pendant deux mandatures. Et il a le même âge que moi, malheureusement pour lui, et donc on doit avoir un mois de différence. Et il racontait. Il se trouve que dans la salle, il y avait le fils de l'ancien propriétaire du Cheval d'Or. Le Cheval d'Or, c'était un cabaret très connu, au même titre que l'Écluse, etc., qui était dans la salle il y a deux ans. Et Lemel est passé au Cheval d'Or. Et donc, on parlait de ça, et à un moment donné, il me dit, mais un soir, il y avait un présentateur, et le présentateur n'était pas là. Et Tcherniak, le patron, donc, lui dit, ah bah, tu vas faire le présentateur, bon, voilà. Mais moi, j'étais complètement paniqué parce que c'était un truc
complètement tétanisé, c'est pas son truc,
quoi, je savais pas. Et je lui dis oui, et je lui dis pour 50 francs par soir, c'était quand même un sac. Ah non, 20 francs. Et donc les types tournaient dans plusieurs cabarets pour avoir un petit peu de
un petit peu de fraîche,
un petit peu d'oseille.
Ah oui, c'était ça la vie.
Et voilà, c'était ça la vie.
Ouais.
Et tous ces gens-là, alors l'intérêt c'est qu'on pouvait passer, on quittait l'Écluse où il y avait Barbara. On pouvait monter à la Colombe, où il y avait Anne Sylvestre, où il y avait Jean Ferrat, où il y avait, s'il vous plaît, Guy Béard. Il y avait deux salles séparées. Ils étaient sur un tabouret qui communiquait dans les deux salles et ils chantaient comme ça. Anne Sylvestre a souvent raconté ça, quoi. Et ils faisaient plusieurs cabarets dans la nuit, quoi.
Et il y avait évidemment le public pour ça. Et évidemment, corollaire, il y avait les salles. Maintenant, ces salles n'existent plus, ou sont devenues autre chose.
Les petits lieux où effectivement ils pouvaient faire leur apprendre leur métier. Hein. Bon,
on pouvait s'essayer.
Il y en avait encore deux, trois. J'ai un bon souvenir du limonaire qui a dû fermer il y a 5-6 ans, où tout le monde passait dans le limonaire. La scène faisait 2 mètres sur 2 mètres hein, au limonaire. Mais il y avait tous les grands du moment. Alain Leprest, on aura l'occasion d'en reparler. Anne Sylvestre, etc.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment une ambiance de sortie, de spectacle qui n'existe plus.
Très facile, en plus.
Ni à Paris, ni ailleurs. Il y a plus cette profusion où effectivement tous les artistes pouvaient se produire très facilement avec une programmation qui n'est pas calée 6 mois ou 2 ans à l'avance. C'était un autre monde.
Et une proximité, proximité incroyable. Quoi, ouais. Oui. Alors, il y a encore...
Et les artistes donnaient beaucoup parce qu'ils chantaient effectivement plusieurs fois dans la soirée, toute la semaine.
Des gens comme Pierre Perret, Poiret Serrault ont démarré au Cheval d'Or. Quoi.
Poiret Serrault, c'est pareil, ce sont plutôt des gens de la chanson à l'origine.
Ils ont commencé, non, ils faisaient des sketchs. Hein,
oui, c'était les sketchs, pardon.
Mais ils passaient dans des salles comme celle-ci. Alors, je vais arrêter avec des petites anecdotes comme ça, peut-être.
Je ne sais pas. Bah, je dirais un grand stop quand il y en aura trop, j'en ai pas encore assez.
Pour me faire sortir. Là. Donc le fils Tcherniak, qui est un ami à moi, donc raconte que chez Tcherniak père, il y avait une scène qui ne devait pas être très grande. Hein, là,
on parle de scène pas très grande, c'est 2 mètres sur 2. Quoi.
Voilà, c'est ça. Hein, quoi. Et lui, le fils Tcherniak, il avait son lit sous la scène.
Ah oui.
Donc il tirait le lit le soir quand tout le monde était parti. Quoi. Mais là, son passé, Bobby Lapointe, c'était son...
L'inspection du travail ne laisserait plus faire.
Ah non, d'un chien, mais heureusement.
Oui, c'était un autre monde, hein, franchement. Allez, on enchaîne avec quelqu'un qui vous est très cher également, qui s'appelle Éric Frasiak. Et ensuite... Jean-Pierre, j'aimerais qu'on retourne à l'origine, c'est-à-dire comment vous est venu ce goût de la chanson. On va détricoter un petit peu le temps. Vous avez choisi d'Éric Frasiak, Monsieur Boulot. Pourquoi ?
Ah, alors, juste un mot sur Frasiak avant de démarrer. Frasiak, c'est quelqu'un... Il fait partie de tout ce peuple d'artistes qui tournent, mais ils tournent comme des fous. Quoi. Je veux dire, ils font 10 concerts par mois. Quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Quoi. Et qui gagnent bien leur vie, relativement. Mais que personne ne connaît, sauf ceux qui ont assisté, qui petit à petit, ça fait boule de neige, etc. Et donc, il vit bien de son métier. Voilà. Et Monsieur Boulot est peut-être le moment où, dans cette carrière-là, maintenant, qui dure depuis quand même assez longtemps, il a acquis une certaine notoriété. Quoi. Donc, voilà. Et cette. On va voir, hein, mais cette chanson parle bien de choses actuelles. Quoi.
Absolument. On écoute la chanson et puis ensuite, on reviendra sur le texte.
Monsieur Boulot, on te voit plus dans la région depuis un bail. T'es parti ou t'as disparu, à Kiev, à Pékin ou Shanghai. Nous on t'avait toujours connu, t'étais de toutes nos batailles. T'habitais juste au bout de la rue, t'as tout laissé pour ce travail. T'as pris avec toi tes affaires, tes tours, tes fraiseuses, tes camions. Maintenant l'usine c'est un cimetière et les 3-8 on tourne en rond. Si tu voyais comme c'est rouillé, la boutique où on s'est connu, bureaux squattés et murs tagués et les cheminées qui ne fument plus. Monsieur Boulot, pour qui tu bosses depuis que tu nous as oubliés? Je sais pas si t'avais des gosses, mais les nôtres ils peuvent plus te saquer. Pôle Sud, Pôle Nord ou Pôle Emploi. On a beau y croire tous les jours, on le cherche partout mais on te trouve pas. Et on commence à être à court après tout ce qu'on a fait pour toi. T'as même pas laissé un petit mot, t'as préféré partir comme ça. Ici on dit comme un salaud, j'espère qu'on te reverra un jour. Que tu repasseras par chez nous et même si c'est plus trop de l'amour, on t'en voudra pas pour un sou. Monsieur Boulot, tu fais la course aux bénéfices et aux rendements. Et même si t'en as plein les bourses, de tes dollars, de tes placements, tu te souviens plus comme c'était beau. Reviens faire un tour par ici, on rallumera les hauts fourneaux, l'accordéon sur nos samedis. Hey. Monsieur Monsieur Boulot, qu'est-ce que tu deviens? La vie sans toi, c'est plus pareil. Depuis qu'on te voit plus dans le coin, on dort plus sur nos deux oreilles. Pour la communion du dernier, on aurait aimé que tu sois là. On doit même plutôt t'avouer que ce sera pas facile sans toi. On t'aimait bien. Dans le quartier, on comptait tous un peu sur toi. Pour la bagnole, pour le loyer, pour boucler la fin des 12 mois. Mais quand on te voit à la télé prendre la pause et faire le beau, on se dit que le fric t'a bien changé. Pourtant tu manques. Pourtant tu manques. Monsieur Boulot.
En plus, cette petite ambiance live, c'est comme ça au Festival Grange.
C'est tout à fait ça. Ouais, ouais, c'est ça.
D'ailleurs, si ça se trouve, c'est une capture du Festival Grange. On
c'est
sait pas.
C'est possible, ça. Ouais,
il est venu. Ouais, il est venu plusieurs fois.
Il est venu plusieurs fois. Oui, oui. On avait réussi à monter avec lui un partenaire. En fait, il y avait eu un appel d'offres, au niveau de la région, et on avait remporté cet appel d'offres et on a pu monter 30 partenariats avec des écoles, avec des chorales, avec des voilà, et entre Cézanne, Esternay et Montmirail. Et donc c'est vraiment un sociétaire comme l'Académie française.
Bon, en tout cas, oui, sacré texte, hein, de l'ironie, mais aussi aussi de la tristesse, un peu d'amertume, hein, sur ce boulot qui nous file entre les doigts.
Bien sûr.
Qui n'est plus là et
ça rappelle un peu comment s'appelle le Stéphanois Lavilliers dans Les Mains d'Or.
Ouais, et puis moi ça m'a, quand je l'ai écouté, ça m'a même fait un peu penser à Zola.
Ah oui, oui.
Je ne sais pas pourquoi, hein, mais effectivement les ouvriers, voilà, qui ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain ils ne peuvent plus retourner travailler. Alors, moi j'ai très très envie d'avoir des tas d'anecdotes sur le festival. Je voudrais comprendre aussi, Jean-Pierre, hein, vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faut avoir en soi pour faire perdurer un festival comme ça pendant 30 ans, j'imagine que ce n'est pas facile. Mais revenons au petit Jean-Pierre.
Oui, le petit Jean-Pierre.
Le petit Jean-Pierre, est-ce qu'il se souvient de ses premières émotions musicales? Pourquoi Jean-Pierre aime-t-il autant la chanson française?
Alors, je crois que c'était un truc assez général qui s'est perdu. Dans les familles, on chantait beaucoup, 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 et notamment dans la mienne. Et il était de rigueur qu'à la fin du repas, il y ait ou le petit cousin qui entame une chanson. Et je me souviens notamment d'une cousine qui chantait Aznavour à l'époque déjà.
Elle était déjà précurseur.
Ouais, pour mes 10 ans, je me rappelle Sur ma vie, ça s'appelait. Ouais, Sur ma vie, je t'ai juré un jour.
Oui, on connaît.
Et voilà quoi. Donc c'est, ça faisait partie de la vie de tous les jours. Ou presque. Ma mère a eu un restaurant où il y avait volontiers l'accordéon qui sortait souvent. Et puis c'est un truc, c'est la poésie, hein, c'est la poésie actuelle. Hein, c'est Aragon sans les chanteurs, je pense qu'il serait pas grand chose aujourd'hui, quoi.
Ça n'aurait peut-être pas perduré de la même façon.
Peut-être.
Mais c'est vrai que ce que vous évoquez me fait penser que dans le temps, on va être un peu nostalgique,
oui,
hein, ce matin, mais dans le temps, il y avait une proximité avec la musique qu'on n'a plus maintenant. Effectivement, les jeunes écoutent énormément, ils connaissent des tas de choses, ils ont accès à des tas de choses.
Oui, oui.
Mais dans le temps, on chantait facilement, on n'avait pas peur de sa propre voix. On n'avait pas peur, j'ai envie de dire, certains diraient du ridicule, mais il n'y avait pas de ridicule parce que c'était tellement commun de chanter, et c'est surtout parce qu'on chantait tous ensemble.
Et c'était
c'est ça, on n'était pas seul, c'était collégial.
C'était vraiment une culture commune,
ouais,
et pour cause, il y avait une seule chaîne, et Guy Lux, tout le monde se le farcissait.
Ouais.
Donc du coup, les chanteurs étaient communs. Aujourd'hui, il y a tellement de tribus différentes. Qu'effectivement, chacun a ses canaux, c'est la dispersion.
Oui.
Sauf que, il me semble que, malgré ce qu'on raconte, quand il y a des chansons, comme on vient d'entendre, qui passent au festival, tout le monde écoute. les jeunes, les vieux, les moyens, les trucs. C'est marrant
ça,
quand même.
Ça force le respect.
Et ça
on se dit, tiens, ce gars-là raconte, ou cette femme-là, raconte quelque chose.
Ah ouais.
On va tendre l'oreille.
Et il embarque.
C'est un peu ça. Et il embarque. Et mais là, c'est vrai que c'est comme un fil qu'on déroule. Et elle est terrible, cette chanson, hein, sur le boulot et le désarroi que bien des familles ont connu et connaissent encore. Mais c'est vrai, je voudrais revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire même encore avant, parce que je pense que dans les années 60, c'était déjà fini, mais les gens achetaient les partitions.
Absolument.
Ça s'est fini quand, ça, ce truc des partitions qu'on achetait pratiquement dans la rue?
Les petits formats.
Oui.
Effectivement, les chanteurs des rues gagnaient leur vie avec ça. Hein,
oui, et les gens achetaient facilement la partition parce que c'était encore pas. Il y avait du disque, bien sûr, mais ils avaient la partition chez eux et ils chantaient comme ça.
Oui.
Il y avait un rapport à la musique qui était beaucoup plus simple.
Beaucoup plus proche, beaucoup plus simple.
Plus proche,
ça faisait partie de la vie. Et. Oui, il y avait encore des chanteurs dans les années 60, il y avait encore des chanteurs dans les rues. C'est, je me souviens, du haut de mes 150 ans, je me souviens qu'on lançait des pièces dans du papier pour que la gamine et son père, sans doute, qui l'accompagnait, c'était pas Edith Piaf, hein, quand même.
Non, c'était avant Edith Piaf. Hein.
Puisse récupérer les sous.
Ouais.
Donc, dans les années 60,
ça existait encore.
Ça existait encore.
Bon, moi, j'avoue que je ne l'ai pas connu,
oui,
ça.
Mais...
J'avoue que je ne l'ai pas connu, mais c'est vrai que voilà, on sait que dans les familles ça chantait et ça c'est quand même totalement perdu.
Et il y avait de la poésie.
On fait peut-être tourner les serviettes.
Oui,
on ne chante plus vraiment.
Et on chante plus ensemble. On est tétanisé par le chanteur. Enfin, on écoute le chanteur.
Mais on est aussi tétanisé par les modèles de chanteurs. C'est-à-dire qu'on est tellement immergé de tant d'images que les gens n'osent plus chanter.
Oui, on peut pas faire ça. On peut pas.
Alors qu'avant, on n'avait pas de pudeur, je crois.
Moi, en tout cas, moins.
Donc.
Ouais. Oui.
Donc oui, parce que je raconte mes souvenirs en plus.
Non, mais oui, j'y arrive.
Un petit peu, mais
j'y arrive très bien à vous faire raconter.
Mais c'est quand même incroyable, Jean-Pierre. C'est vous qui me faites parler. Mais que se passe-t-il ce matin?
Que se passe-t-il?
Alors, Jean-Pierre, donc on va être clair. Vous, ça n'a pas été ensuite une profession. Vous-même, vous n'êtes pas chanteur, vous n'êtes pas musicien. Vous me l'avez confié. Mais vous avez gardé cet amour et effectivement. Vous avez vécu cette vie de Parisien qui sort le soir énormément et qui se nourrit.
Oui, non, ça se faisait assez naturellement, effectivement. On pouvait s'en sortir plus facilement. Peut-être qu'économiquement, c'était plus facile.
Je crois aussi que ça coûtait moins cher, absolument.
On va dire ça comme ça, Et alors, l'intérêt, c'est qu'on pouvait fréquenter aussi bien la Colombe, comme je disais, où il y avait Anne-Sylvestre et compagnie, ou Guy Béard, mais on pouvait comme... À l'époque, on pouvait aussi fréquenter un truc qui s'appelait le Golf Draw, quand même.
Oui, deux salles, deux ambiances.
Deux salles, deux ambiances.
Comme on dit maintenant.
Mais il n'y avait pas de, tribus très différentes. Quoi. On pouvait faire les deux. Quoi. Voilà.
Il n'y avait pas de clivage.
Non, je crois.
Alors
pas.
Qu'il y en a peut-être davantage maintenant.
Accentué.
Mais faites-nous rêver, Jean-Pierre, parce que quand on a parlé tous les deux, vous m'avez donné tous ces noms de théâtre qui résonnent, hein, l'ABC, etc.
Ah ouais.
Mais vous, dites-nous qui vous avez vu quand vous étiez jeune.
Alors,
jeune.
Tous, hein, plus jeunes, ça me fait du bien. Tous, je ne sais pas, depuis Charles Trenet jusqu'à...
Vous les avez tous vus, on peut dire.
Non, je ne sais pas, mais j'ai pas le souvenir, par exemple, 62, on est en 62.
Oui.
D'accord, vous n'étiez pas né. Voilà. Et il y avait une émission en direct sur, à l'époque c'était Paris Inter, je crois. Et il y avait une émission en direct de 2 heures le lundi, et on était dans les coulisses de l'ABC tout le temps pour avoir un autographe.
Oui, parce que je fais une petite parenthèse, il y avait beaucoup ça aussi. Les émissions Radio Crochet, retransmis en direct à la radio, parce qu'il y avait aussi cette culture de la radio.
Ouais. Et là, donc on est dans les escaliers avant la scène, et là, il y a un jeune homme qui se pointe et qui a une guitare, et qui dit, est-ce que je peux vous chanter une chanson, les mecs? Comme ça.
Ah oui, je vois bien. Alors, je peux vous chanter une chanson, les mecs. Dites-moi ce que vous en pensez.
Voilà. Et donc, le type commence. Il s'agit d'un boui-boui bien crado où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au crochet. Voilà. Et ça vous plaît, les mecs? Oui, oui. Bah oui, ça vous plaît. Tu parles. Donc, Pierre Perret, et il saute sur une scène.
Il s'est senti confirmé. Il s'est dit, ça me plaît, je vais y aller.
Vous avez le sentiment
que ça lui a donné confiance en lui.
Et donc, malheureusement, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et je lui dis, vous vous souvenez des deux gamins qui étaient devant, là, quand tout est passé? Non, ils ne se souvenaient pas, cruellement.
Ah, mais oui, mais il a vécu tellement d'autres choses. Bon, faut pas leur en vouloir. Mais en tout cas, Alex, elle prépare drôlement bien ses émissions, parce que vous le croirez ou pas, eh bien, la chanson d'après, c'est Pierre Perret.
Ah oui.
La vie est bien faite, n'est-ce pas?
Ah, tout à fait.
Allez, on passe Pierre Perret et on explique ensuite ce texte qui s'appelle La Bérésina.
Quand on voudrait becquer et que la table recule, quand on a les guibolles en saucisse de Strasbourg, quand on a le palpitant qui bat la générale, rien dans la cage à pain depuis plus de 8 jours, il y a la poche des copains qui contient que des oursins, la donzelle qui bosse plus, la coule douce au violon. Pour ce qui est de turbiner, moi ça me fait mal au sein. Y a de quoi se filer une valda dans le plafond. Voilà, comme dit la môme Nina, c'est pas jour de gala, c'est la bérésina. Si la mouise est sortie, c'est la faute à Bertrand, un petit gars du milieu qui bricolait pour nous. Il était vraiment doué, toutes les souris à genoux attendaient ses torgnoles comme là dans le printemps. L'été mal baraqué pour tomber les gonzesses, la trombine de traviole, une perruque en peau de fesse. L'intérieur mal pavé, il était pas giron, il devait se laver les crocs à la crème de marron. Voilà, comme dit la môme Nina, c'est pas jour de gala, c'est la bérésina. Aussi sec sans me lire, quand on est dans ce métier, faut saigner le poulet quand il se met à crier. Mais ses zig à chaque fois qu'il rencontrait les bourgs, il avait les deux miches qui jouaient du tambour. Et à cause de ce plouc, on s'est fait marmiter. De Nina, simplement, je n'ai pu qu'emporter cette marque au fer chaud, alentour de mon cœur, des râteaux mordilleurs qui m'ont fait les petites fleurs. Voilà, comme dit la môme Nina, c'est pas jour de gala, c'est la bérésina.
Alors Jean-Pierre, c'est quoi la bérésina?
Ah ben c'est la dèche.
C'est la dèche. Et on n'est pas dans du joyeux joyeux quand même ce matin. Hein,
non, mais c'est tendre quand même.
C'est très tendre.
C'est Pierre Perret, quoi. Je pense que c'est un des derniers grands, quoi, qui nous reste, qui écrit comme ça, qui a touché à tellement de thèmes.
Oui, c'est la question que j'avais envie de vous poser, parce que je suis totalement humble, hein, sur le sujet de la chanson française à texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce même univers sémantique, on va dire, hein, cette poésie populaire, un peu argot. Est-ce qu'il a un successeur?
Un successeur, je crois pas.
Il est unique en son genre.
Je crois qu'il y a Yves Jamais qui emprunte un peu ce chemin-là, mais Mais il y a l'argot là quand même.
Il y a quand même une touche très particulière. Moi, dans tout ce que j'ai écouté, que vous m'avez fait écouter, je n'ai pas retrouvé une filiation avec Pierre Perret.
Non. Et puis il aborde des thèmes importants, graves. Mais en même temps, il fait sourire et on sourit en même temps.
Parce qu'il a cette petite voix un peu mutine, un peu.
Et par contre, il y a beaucoup de jeunes qui reprennent les Ogres de Barbac, tout ça, qui reprennent ces chansons, mais qui personnalisent le même domaine.
En tout cas, dans tout ce qu'on entend ce matin, force est de constater quand même que, certes, il y a évidemment de la musique, et qu'il y a des arrangements qui sont très, 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 très jolis, mais on sent quand même que c'est la voix, le texte qui sont vraiment en avant. La musique n'écrase pas le texte.
Non, absolument. Oui, c'est bien ça. C'est ça.
Voilà. Ouais.
Mais il y a des jolies mélodies qui permettent.
Il y a des très jolies mélodies, mais on sent que c'est vraiment en deuxième pour soutenir le texte et non pas pour se mettre en avant.
Oui, je suis d'accord.
Et je me posais une question aussi, parce qu'il y a aussi d'autres cultures de chansons à texte. Je pense notamment à l'Italie, où on a des grands chanteurs, des Grégory, des André, etc. Est-ce qu'il y a une chanson à texte française, avec un ADN français particulier? Est-ce que toutes les chansons à texte se ressemblent partout dans le monde?
Non, mais je crois que dans ce domaine, l'Italie et la France sont proches quand même.
Et pourtant, quand j'écoute, je trouve que c'est très différent. En Italie, j'ai l'impression qu'il y a plus de musique.
Oui, la musique est plus devant. Oui, et puis plus importante, plus alerte.
Peu latin, peut-être. Quand même. Et est-ce que les thèmes, alors peut-être aussi plus politiques,
plus franchement
politiques.
Oui. Il y a eu quand même tout un fond, la rive gauche.
Bien sûr.
Léo Ferré. C'est quand même tout ça est très politique. Alors qu'en Italie, je vois pas de.
Bon, et puis de toute façon, ce n'est pas notre propos. Faudra revenir.
On
reviendra, Jean-Pierre, pour faire une analyse comparée des différentes chansons, des chansons à texte. Oui, parce que on va le dire tout à l'heure. Je pense qu'on aura encore un peu le temps, mais. Oh, disons-le maintenant, Jean-Pierre, vous écrivez aussi, vous aimez tellement la chanson que vous avez, comme on dit, commis quelques livres sur la chanson. Bon, parlons-en maintenant.
Chante Morin, qui est l'association qui porte tout ça, quoi.
Oui, on va bien le redire.
Festival, a une partie édition. Et dans cette partie édition, effectivement, on a fait notamment deux ouvrages qui mélangent les paysages de cette région. Et la chanson. Il y a toujours la chanson quand même, quelque part. Donc il y a eu Balade dans la vallée du Petit Morin, Le chemin des lavoirs, décidément c'est la balade, quoi. Le chemin des lavoirs entre Brie et Champagne.
Tout ça très bucolique également, mais complètement enraciné dans cette vallée du Petit Morin.
Que j'adore.
On parle bien de ça, on ne parle pas d'autre chose.
Et qui a toujours été d'ailleurs une vallée de chansons. Vous m'avez dit ça.
Oui. Alors c'est quoi ce rapport, parce que là comme ça on ne le voit pas, le rapport entre la vallée du Petit Morin et la chanson?
Je sais pas, mais il se trouve qu'il y a Mac Orlan qui était à Saint-Cyr sur Morin, qui a écrit pas mal de chansons et qui est un écrivain. Mais il y a un musée Mac Orlan à Saint-Cyr. Jean Viennère qui était à Verdelot, qui a écrit 150 musiques de films. Il y avait Jean-Pierre Chabrol aussi qui habitait à Saint-Cyr. Donc c'est curieux.
Un endroit peut-être où on est bien pour écrire des chansons.
Je pense qu'on y est bien.
Tout simplement.
Je suis pas choisi au hasard.
Alors on va quand même sortir un petit peu du Petit Morin, parce que vous avez eu envie de nous faire écouter un peu de Charles Trenet.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. N'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne de Vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
Quelle délicatesse, cette chanson, quelle douceur, quelle tendresse.
Ouais, ouais.
C'est un peu, c'est un des maîtres.
Ah oui, oui.
On va dire.
C'est le premier à introduire le jazz dans les chansons. Mm-hmm. C'est très, très rythmé quand même. Hein.
Oui, et oui, il y a un petit peu de swing hein, dans
ouais,
tout
y a
ça.
Le swing. Ouais. Et très délicat, bon, très beau. Quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, il passe très bien les décennies, hein, parce que nombreux sont les artistes contemporains qui reprennent, je pense notamment à Benjamin Biolay, qui a fait des choses vraiment jolies avec,
ah oui, c'est
avec les morceaux de Charles Trenet.
Il n'y a qu'à piocher, hein, là, tout est bon.
Tout est bon.
Et moi, je l'ai vu sur scène, mais il avait déjà, je crois qu'il avait 87 ans, 90, 90 ans, j'en sais plus, au Palais des Congrès. Et c'était formidable. Quoi. Et il avait gardé sa voix, lui. Il avait cet avantage par rapport à d'autres. Je n'aurais pas esquinté Aznavour tout de suite, mais effectivement, il avait gardé sa voix et c'était parfait. Alors qu'Aznavour, à la fin, est quand même un peu dur.
Bon, je trouve. Ça arrive, hein.
Ça, ah oui, oui, je connais très bien le sujet. Oui.
On va maintenant parler quand même de ce festival. Donc le festival, on l'a compris tout à l'heure, est né d'une évidence. Vous vous installez ici, vous avez une grange au fond du jardin. Ça devient, parce que vous avez des amis musiciens, ça devient de fait un endroit de concert, un peu impromptu. Mais comment on passe de cette ambiance un peu entre potes à un festival ?
Alors, ça commence doucement. Ça commence doucement avec quelques amis qui viennent pour la première édition, c'est 1980.
Oui, quand même. Nous ne sommes pas des dinosaures.
Ah, attention, quand même. 1996. Et dans les premiers, c'est amusant d'ailleurs. Dans les premiers, donc, j'ai cité tout à l'heure Gilbert Lafaille, mais il se trouve qu'il y avait un jeune harmoniciste. Je me souviens très bien de ça, un trio de jazz. À l'époque, il y avait du jazz. Et tout jeune, 22-23 ans, petit trio, bien propre sur lui et tout. Et qui avait fait un franc succès. Et c'est un des premiers festivals. Et 10 ans après, je l'ai retrouvé à côté de Johnny Hallyday, avec des plumes dans les cheveux et tout. Et c'était l'harmoniciste qui faisait le solo de Gabriel, notamment, que tous ceux qui ont un peu regardé Johnny Hallyday et qui ont écouté Johnny Hallyday connaissent bien. Donc voilà.
Il se détache du lot.
Il se détache du lot.
Mais Johnny Hallyday avait cette grâce, on va dire, d'aller chercher de très très bons musiciens et il leur donnait la possibilité de faire de très très beaux solos.
Et de très bons auteurs.
Oui. Aussi, oui, oui. Autre sujet.
Oui, oui, tout à fait. Et bon, voilà. Et donc petit à petit, il y a eu 2 soirées, 3 soirées.
Mais tout ça, c'était des potes à vous que vous aviez vus en spectacle et à force de se voir, voilà, on se lie un peu d'amitié.
Voilà, ils acceptent de venir pour 3 francs 6 sous, faut être honnête. Et petit à petit, il y a eu 4
pour le plaisir de chanter
d'être là dans cette campagne qui est très jolie, cette vallée qui est très jolie, qui rentre en ligne de compte. Voilà. Et petit à petit, ces joints là-dedans, on fait à chaque fois un film muet accompagné directement sur scène par un orchestre.
Ça, vous l'avez fait pendant 30 ans?
Non, on l'a fait pendant 10 années.
Oui.
Là, on arrive.
Excellente idée.
On arrive à la fin là maintenant. Hein. Mm. On est à la 30e cette année. Mm. C'est la dernière, bon voilà. Mais donc on avait, et surtout c'était un festival nomade, c'est-à-dire qu'on faisait des soirées pendant cette semaine, ça durait une semaine en septembre, on faisait une soirée à Esternay, une soirée à Cézanne, 2-3 soirées ici ou là.
Différentes salles, voilà. Différentes ambiances.
Ça voulait dire se trimballer avec un camion de matériel, un camion...
Toute la logistique, on imagine.
Pour une toute petite association... ça ne tenait que par des partenariats, que par des gens. La grange dont on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait les escaliers aux normes européennes.
Il y avait combien de personnes autour de vous pour mettre en place ce festival?
Allez, 10.
Ah oui. Bon, oui. Non, ouais. Mais il faut le dire, parce que on n'était pas sur 30 ou 50 personnes.
Non, c'est ça. On
10 personnes.
10 personnes.
Hyper motivées. Chacune amène sa petite pierre
avec
à l'édifice.
Avec des partenariats avec d'autres associations. Je pense que si on avait fait appel à une société d'études en disant, est-ce que vous pensez que dans la vallée du Petit Morin on peut installer un festival dans les villages de 120 habitants ou de 130 habitants,
on aurait dit ben non, bien sûr.
Je pense qu'on aurait
bien sûr que non. Oh là là, je vois que le temps file, cher Jean-Pierre.
Pardon.
Alors moi j'ai une question, qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour faire durer un festival pendant 30 ans? Qu'est-ce qu'il faut avoir de détermination, de ténacité, mais de débrouillardise aussi, j'imagine?
Je pense que c'est une petite folie quand même. Hein, bon,
parce je
que
pense ça, aussi, ça, oui. Ouais, bon.
Mais en dehors de ça, il faut avoir une envie énorme de partager des trucs qu'on a vus ou entendus. Je parle pas que de la chanson, voilà. Et de vouloir les partager, quoi. Je veux dire, c'est plus fort que moi quand je vois un spectacle qui me, il y en aura notamment pour le prochain là, un spectacle qui m'émeut, qui me fait rire ou quoi. Je vais faire la danse du ventre à l'artiste en question.
Ah, vous faites ce genre de choses.
Je fais ça très
d'accord.
Bien. Ouais, ouais. Et donc pour arriver à, et comme ça on a eu des grands, hein, des tourants vraiment de la chanson qui ont accepté de venir et qui reviennent en plus, c'est pas mal ça.
On va en parler. En tout cas, vous avez encore 3 très beaux morceaux que l'on veut absolument faire passer. Et évidemment, comme d'habitude, je vais dépasser mon heure, c'est terrible. Peut-être qu'on sera obligé de parler sur la musique. C'est Yves Jamais, hein, que vous adorez.
Oui.
Qui a fait une très belle carrière.
Ah oui, je le confesse. Oui,
et il va nous chanter Je passais par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie.
Non.
Souvent, mes invités me disent... Il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a que des rencontres.
Je passais par hasard. Je passais pour vous voir. Pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs. C'est possible. À deux. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs, là c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, j'en étais presque chiant de vous sentir heureux. C'est dans cet esprit-là que je franchis le seuil de cette jolie maison et d'un désir nuptial. Mais là, je reste quoi, interdit sur l'écueil qui brise la passion en horreur conjugale. Nous voilà tous les deux accablés de silence. Je cherche en vain les mots qui pourraient te porter, effacer tous ces bleus, enfin des mots qui pensent et se glissent sur ta peau, au corps terrorisé. Les mains de ma honteuse tremblent de te te toucher. Je m'approche quand même et te prends dans mes bras. Tu t'enfouis dans le creux de mon cou pour pleurer. Tu dis c'est la vieille voix qui me fait ça. Je passais par hasard, je passais pour toi, pour retrouver un de ces amitiés rares qui font de l'espoir, car c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. Et que ça fait longtemps, déjà, qu'il te dérouille, tant il est persuadé que tu dragues au passage. Et son regard vivement te fait crever des trouilles quand il vient soulager avec ses poings sa rage. Si les poings ne suffisent pas, il frappe avec les pieds quand on pisse sur le sol comme une bête inerte. Tu caches de tes bras ton visage stupéfié. Alors le coup de brôle n'en est que plus à l'air. Alors le coup de brôle n'en est que plus à l'air. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de l'espoir, car c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. Je ne reconnais pas, à travers cette ordure, celui que j'aimais. Aujourd'hui j'ai vomi, il n'était pas comme ça, enfin j'en suis plus sûr, il faut l'avoir été.
Alors même s'il a la voix qui porte, hein, Yves Jamais, on va quand même essayer de parler sur lui parce que je vois le temps qui passe et on a encore pas mal de choses à se dire, cher Jean-Pierre. Alors Yves Jamais, il est venu au festival.
Ah, il est venu, oui, c'est quelqu'un de très c'est formidable, hein, c'est un type talentueux. Ses trois premiers albums étaient disques d'or quand même.
Alors qu'il s'est mis très belle carrière.
Il s'est mis à la chanson un peu tard, hein, c'est curieux. Il s'y est mis quasiment 40 ans, quoi, 35 ans.
Oui, j'ai lu un peu sa bio et donc en fait il a profité de son indemnité de chômage.
Ouais.
Petit clin d'œil à la chanson de tout à l'heure. lui, il a profité de son indemnité de chômage pour faire son premier disque, je crois.
Et donc lui aussi, il a fait plein de bistrots, plein de et il fait des zéniths aujourd'hui. Il fait la grange aussi, c'est bien. Donc
ça c'est bien. Alors on peut quand même dire que les gens qu'on a passés, alors bon, peut-être pas Pierre Vassilou.
Oui.
Pierre Perret non plus sont pas venus, mais vous les avez croisés.
Ouais.
Mais sinon, Frasiac, Jamais,
oui,
ils sont venus.
Absolument.
Qui est-ce qui vient aussi régulièrement?
Oh, il y a Clarica qui est venue plusieurs fois. Il y a un peu toute cette chanson française qui tourne beaucoup, hein, même si on la connaît pas à la télé, même si partout il y a des associations qui font venir les. Alors, on pas loin d'ici, on a le festival Bernard Dimet à Chaumont, à Neugent, en Haute-Marne, et là passe tout un tas de d'artistes qui passent aussi chez nous, des Lyonnais qui circulent beaucoup, des groupes de Lyon, Kent qui est venu à la Grange plusieurs fois.
Marcella.
Et Barcella.
Qui est Rémois.
Barcella, c'est notre parrain depuis 15 ans.
Ah bah alors, mais on oui, allait mais oublier, oui. Dis Barcella, donc. Non mais honte à nous.
Non, c'est
honte à nous.
Alors voilà, un bel exemple, la Barcella. Il tourne comme un fou. Et lui aussi, il fait des très très belles chansons. Hein. Il alterne des très très belles chansons, ce que moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, il a un public jeune. Hein.
Tout à fait. Mais voilà, il faut bien se dire quand même, ces chanteurs, ces interprètes ont des choses à dire. Il faut aller vers eux parce que, mis à part quelques exceptions, ils ne sont pas dans les grandes salles. Donc, il faut se prendre un peu par la main et regarder des territoires comme les nôtres, sur les plaines de Champagne. Il y a des festivals, il y a des petites salles de concert, il y a des bars qui s'ouvrent aussi. Et c'est important de tendre l'oreille et de regarder tout ce qui se passe. Bon, nous, on sera toujours là sur Antenne 87 pour relayer. Mais oui, là, c'est pas... Tout ça ne vient pas à nous, naturellement. Hein. On va laisser les grosses tournées se faire. Mais voilà, si vous aimez la chanson à texte, les interprètes qui ont vraiment des choses à dire, eh bien, il faut vous prendre par la main et aller vers eux. C'est important. Néanmoins, on a compris, vous l'avez dit, Jean-Pierre, septembre prochain, ce sera la 30e et la dernière édition.
Voilà, voilà.
C'est sans appel.
Ah, c'est
sans... Non, parce que depuis, j'essaie de dire, mais non, c'est pas possible, ça va pas s'arrêter, il va y avoir une suite, mais non, c'est décidé,
pas Maurice Chevalier, non. Et donc, il y aura pas d'autres...
Il y aura pas d'autres.
Mais ça va être une fête, quoi. Franchement, on va essayer de réunir tous ceux... On essaye en ce moment-là.
On donne les dates très vite fait.
Très vite fait. Il y a quelques concerts sur le premier semestre. Notamment, il y a deux dates à retenir, 7 juin... 27 et 28 juin. Okay. Et puis surtout, la grande partie, c'est en septembre, où il y a le week-end du 4 et 5, 6 septembre, où on essaye de réunir tous ceux qui nous ont émus, qui nous ont fait rire, etc.
Ouais, ça va être vraiment une grande fête amicale, familiale. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Voilà. On en reparlera, Jean-Pierre, surtout. Hein, vous nous tenez bien.
Plaisir.
Au fait, et Antenne 87 se fera un plaisir de relayer. Le temps nous presse, donc, oulala, je crois qu'on va avoir du mal à passer la dédicace, on va se dépêcher. On n'a pas eu Anne Sylvestre.
Ah oui, c'est dommage. Hein, ah oui,
on n'a pas eu le temps, et puis on s'est dit, c'est trop triste. Allez, on termine avec celui qui vous tient super à cœur, c'est Charles Aznavour. Je vous remercie, Jean-Pierre.
Merci, Alex. Merci.
J'ai adoré ce moment passé en votre compagnie et avec cette playlist qui vous ressemble, profondément humaine et un brin nostalgique. Et on part sur Charles Aznavour.
Merci, Alex.
Je reviens.
Pourquoi donc irais-je encore à la guerre ? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elle berçait pour moi des rêveries anciennes, illusion d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères, bleuets coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer n'y pourront jamais rien. Car l'amour est lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas.